vous partager la parole de Dieu, content de pouvoir méditer et réfléchir à qui est notre grand Dieu, notre Sauveur. J'ai une question. Comment est-ce que vous évaluez les choses importantes? Je vous propose comme réponse aux ressources que l'on déploie. On met des ressources quand c'est important. On met des moyens humains, financiers, quand nous estimons qu'une chose est importante. Le quoi qu'il en coûte. À savoir si c'était juste ou pas, ce n'est pas la question. Mais la personne a estimé que c'était important et ils ont mis les moyens. Et on peut se poser cette question. Dans quoi je mets mes ressources? Mon temps, mon argent, mes relations? Notre Dieu met son cœur dans sa gloire, dans la gloire que son, dont Dieu met son cœur pour que des gens puissent être en relation avec lui. Il déploie les ressources. Il met en action beaucoup de choses pour cela. Et c'est ce que l'évangéliste Luc nous rapporte. Le but de l'évangile de Luc est de renforcer, de fortifier les chrétiens dans l'enseignement qu'ils ont reçu. Et cet enseignement, il le résume au chapitre 19. « Car le Fils de l'homme, Jésus-Christ, est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Et dans le contexte de Luc, c'est que les non-juifs ont aussi accès au salut. Et que le monde entier a accès au salut. Et qu'il faut l'annoncer. C'est le programme que je vous propose pour ce matin. Je ne vais pas pouvoir vous parler de méthode, mais vous parler de fondement, l'intention de Dieu pour le monde. On va regarder à travers l'évangile de Luc au chapitre 15. Si vous avez pris des Bibles qui étaient à l'entrée, c'est à la page 980. Ça se trouve dans le Nouveau Testament. Ça va, vous avez votre texte. Les deux premiers versets nous posent le contexte. Les collecteurs d'impôts et autres pécheurs notoires se pressaient tous autour de Jésus, avides d'écouter ses paroles. Les pharisiens et les spécialistes de la loi s'en indignaient et disaient « Cet individu fréquente des pécheurs notables et s'attable avec eux ?» Après, nous avons une série de trois histoires, trois paraboles que Jésus va donner pour essayer de faire comprendre ce qui se passe. Mais dans ce contexte, je voulais relever qu'on voit des collecteurs d'impôts qui sont associés à des pécheurs notoires. Le contexte de l'époque, les collecteurs d'impôts n'ont pas la même... Aujourd'hui, quand vous parlez de collecteurs d'impôts, déjà, ce n'est pas forcément vos potes. Mais à l'époque, c'était encore pire. Les collecteurs d'impôts, à l'époque, étaient vus comme des collaborateurs de l'Empire romain. Et c'était des personnes qui trahissaient le peuple juif. Ils étaient associés aux pécheurs, tellement ils étaient mauvais. Et Jésus s'attable avec eux. Jésus va les fréquenter. Il va prendre du temps avec eux. Jésus va s'investir. Et partager un repas avec quelqu'un témoigne quelque part de son acceptation de qui ils sont. Et dans le Proche-Orient, on traitait les alliances autour de repas. Quand nous prenons le repas du Seigneur, c'est aussi dans cet esprit-là que nous le prenons. Jésus va vraiment s'investir avec eux, va prendre du temps, va les écouter, va s'attabler. Et en plus, il montre une envie de les écouter. Et les pharisiens, les spécialistes de la loi, sont indignés du comportement de Jésus. C'est impensable, intolérable, et même mauvais pour eux, en tant que croyants, de passer du temps avec de telles personnes. Les pharisiens sont connus pour exceller dans la pureté, se séparer des gens qui pourraient être dans le compromis ou qui resteraient avec des pécheurs. Alors pour les pharisiens, fréquenter de telles personnes, c'est prendre un risque de se pervertir, de pécher, de mélanger le pur et l'impur, de perdre son temps. Ils vont me pervertir. Je vais perdre mon temps. Je ferai mieux de prier, de lire la Bible, de me concentrer sur l'essentiel. Et la note de la rédaction dit, enfin, ce que j'estime être l'essentiel. Regardons comment Jésus va répondre à cette interpellation des pharisiens. Il ne le fait pas directement. Il le fait en racontant trois histoires. Nous allons lire ensemble les deux premières et je résumerai la troisième. Je commence à partir de verset 3. Alors, Jésus leur répondit par cette parabole. Si l'un de vous possède 100 brebis et qu'une d'elles vient à se perdre, n'abandonnera-t-il pas les 99 autres pâturages pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il ait trouvé? Et quand il l'a trouvée, avec quelle joie il la charge sur ses épaules pour la ramener? Aussitôt rentré chez lui, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Venez, partagez ma joie, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » Je vous assure, il en est de même au ciel. Il y aura plus de joie pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'en ont pas besoin. Ou bien, supposez qu'une femme ait 10 pièces d'argent et qu'elle en perde une. Ne s'empressera-t-elle pas d'allumer une lampe, de balayer sa maison et de chercher soigneusement dans tous les recoins jusqu'à ce qu'elle l'ait retrouvée? Et quand elle l'a trouvée, elle rassemble ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, j'ai retrouvé ma pièce que j'avais perdue. » De même, je vous le déclare, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui change de vie. Et la troisième parabole, c'est la parabole du fils perdu, qui revient, le fils prodigue, qu'on connaît mieux sous ce nom-là. Un garçon qui part de chez son père en lui demandant son héritage, alors que son père n'est même pas encore mort. Il va tout perdre, loin de ses parents, loin de son père. Il n'a même pas le droit de manger avec les cochons. Et il décide de retourner chez son père. Celui-ci l'aperçoit au loin, il court à sa rencontre, il l'embrasse longuement, le prend dans ses bras. Après cela, le fils, lui demande pardon. Son père organise un grand festin. Et l'autre frère, frustré, il se met en colère, refuse de rentrer dans la maison. Son père le rappelle qu'il a tout avec lui. Pourquoi il se plaint? Alors que lui, il est revenu à la vie. Il était mort. C'est ce que son père dit à l'autre frère. Je vais prier. Seigneur, merci pour ta parole. Celle-ci nous révèle qui tu es et te glorifie. Père, je te prie que nous puissions entendre et comprendre ce que tu as à nous dire, car c'est toi qui es les paroles de la vie. Seigneur, ouvre nos yeux pour tout contempler. Parle-nous encore ce matin et nourris-nous par ta voix. Amen. Je vous propose trois points À partir de ce texte, Jésus nous montre le plan de Dieu, le but, le cœur de Dieu. Mais je ne vais pas parler de Dieu, je vais parler du Maître, parce que nous voulons être des disciples de ce Maître. Et donc je parlerai du Maître. Il nous parle de l'amour du Maître, versets 3 et 4 et 8. Il nous parle de la joie du Maître. Et enfin, il nous invite à être comme le Maître. Regardons ensemble l'amour du Maître, versets 3, 4 et au verset 8. Dans la première parabole, le berger abandonne ses 99 brebis pour une perdue. 99 pour une perdue. Et le berger les laisse en autonomie. Il a confiance qu'elles sont protégées, mais il les laisse en autonomie. Il part à la recherche de l'autre brebis. Et tant qu'il n'a pas trouvé, il continue, il continue, il continue. Et il faut imaginer hein, les pâturages à l'époque. Ce n'est pas des belles parcelles entourées de 6000 m² avec un grillage électrique au mieux pour pas que ça sorte. Pour voir un peu à quoi ça ressemble, vous pouvez aller lire dans Genèse 37 avec l'histoire de Joseph. À un moment donné, il part retrouver ses frères. Mais il part pas juste 5 minutes hein, au champ de l'autre côté. Il part, il ne sait même pas où il est. Il va trouver un gars. Et ce gars va lui dire, mais tu cherches quoi? Il dit, je cherche mes frères. Il lui dit, oui, oui, je les ai vus passer. En fait, ils sont à 25 km de là. Et c'est après là qu'on a Joseph qui est vendu. Mais il y a peu de chances pour retrouver une brebis. Il y a peu de chances. Donc quand le berger part pour retrouver cette brebis, il y a peu de chances de la retrouver. Mais ce n'est pas grave, il y va. La femme s'empresse d'allumer une lampe. Elle cherche soigneusement dans tous les recoins. Elle balaye un sol interbattu. Ce n'est pas un beau carrelage. Moi, je me souviens pendant les travaux, quand on voulait balayer, Alain nous disait « Oula, mon garçon, balaye pas trop vite, tu vas mettre de la poussière partout. » On en met partout. Qu'est-ce qu'on va la retrouver dans toute cette poussière, dans tout ce vent? Mais elle cherche. Elle ne s'arrête pas. 1 sur 10. Une pièce. 70 euros. Le salaire pour un ouvrier journalier. Le salaire journalier d'un ouvrier. Plutôt dans ce sens-là. C'est pas grand-chose. Enfin, c'est beaucoup. Mais au bout d'un moment, on va s'arrêter quand même de chercher. On va perdre plus de temps. Mais le berger, la femme, s'investissent. Ils n'arrêtent pas. La probabilité pour la retrouver, la brebis ou la pièce, est très faible. Mais ils se donnent les moyens. Parce que c'est important. Ces deux paraboles nous parlent de Dieu, nous parlent de Jésus, nous parlent de leur cœur. Le brebis, la pièce, nous parle des humains qui sont loin de lui, comme on le voit un peu plus clairement avec la troisième parabole. Et on pourrait se dire, on est déjà 125 au culte à l'église, ça va, Robert, on le laisse de côté. Mais non. Dieu nous dit non. Il a du prix à mes yeux. Je l'aime. Je veux mettre mon énergie pour le retrouver. Je veux de lui. Et Dieu nous dit, si tu es perdu, je suis là, près de toi, j'attends. Et quand le berger l'a retrouvé, qu'est-ce qu'il fait? Il est dans la joie, versets 5, 6 et 7 et 9. Il est dans la joie. Est-ce qu'il va lui dire, si tu recommences, tu vas griller sur le barbecue? Non. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne lui dit pas non plus, tais-toi, avance. Non. Moi, quand j'ai des enfants qui se font mal, des fois, je lui dis, mais je te l'avais dit. Au lieu de dire, ah non, au lieu de le porter, de le ramener. C'est ce qu'il fait. Il porte la brebis. Il la ramène. Il la rejoint. Il l'accompagne. Et un des commentateurs de la Bible disent que toute l'activité est du côté du berger, avec une recherche épuisante de la bête perdue, qui est sûrement apeurée, épuisée, qui ne facilite pas la tâche. Et je n'ai pas jamais porté un mouton sur mes épaules, mais ça doit être quand même assez lourd. Déjà un sac de ciment. Mais le berger est dans la joie. Le fils revient à la maison dans la troisième parabole. Et le père, il court à sa rencontre. Il est très loin, nous dit le texte. Il est loin, mais le père voit son fils arriver et il court. Et c'est l'image de Jésus. Nous nous sommes éloignés de Dieu. Et nous sommes peut-être encore éloignés de lui. Mais lui vient nous chercher pour nous ramener à lui, sans nous faire de reproches, sans nous culpabiliser, sans nous flageller. La joie du berger est débordante. Il invite ses amis, ses voisins. Réjouissez-vous avec moi. J'ai retrouvé ma brebis, j'ai retrouvé ma pièce. Pour le berger, avoir ses 100 brebis était important. La joie du berger est double. D'une part, il a retrouvé sa brebis qui était perdue. Et d'autre part, sa joie, parce que son troupeau est recomposé. Son troupeau était 100 brebis et pas de 99. Le berger connaît les brebis. Il les connaît toutes. Elles sont toutes de la valeur à ses yeux. Il souhaite la totalité et pas juste 99. Oui, 99, c'est pas mal déjà. Non, il lui faut les 100. C'est son rôle de berger de garder tout le monde. Mais ce n'est pas seulement une invitation à partager la joie du maître. Mais en tant que disciple, c'est une invitation à être comme le maître. Versets 7 et 10. Je vais vous les relire, parce qu'on va un peu les commenter. Verset 7. Je vous assure qu'il en est de même au ciel. Il y aura plus de joie pour un seul pécheur qui change de vie que pour 99 justes qui n'en ont pas besoin. De même, verset 10, je vous le déclare, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui change de vie. Et vous l'avez peut-être remarqué à la première lecture, ça peut être interpellant. Qu'est-ce que ça veut dire 99 qui n'ont pas besoin ? Est-ce que c'est des gens qui n'ont pas besoin de se repentir parce qu'ils sont déjà parfaits ? Est-ce que c'est une question théorique, une question ironique ? En fait, on ne sait pas trop. Mais le focus du passage est sur la joie. La joie de retrouver. La joie de Dieu quand une personne se tourne vers lui. Et ça, c'est tout le message du chapitre 15, la joie de Dieu. La deuxième question qu'on pourrait se poser, et Jean Calvin la formule ainsi, pourquoi la conversion d'un méchant apporte une plus grande joie aux anges que la persévérance de plusieurs justes ? C'est intéressant comme question. Pourquoi il y a plus de joie parmi les anges quand un pécheur se repent que pour les justes qui progressent dans la relation avec Dieu, dans la sanctification. Et c'est là que je trouve que la troisième histoire, la troisième parabole, nous aide à comprendre. Je vais lire quelques versets, à partir du verset 25. Donc on a le fils qui était perdu, qui revient à la maison. Et pendant ce temps, le fils aîné qui travaille au champ revient. Et quand il arrive près de la maison, il entend la musique et des danses. Il appelle un de ses serviteurs et lui demande « Qu'est-ce qui se passe ?» Le garçon lui répond « C'est ton frère qui est de retour. Ton père a tué le veau gras en son honneur parce qu'il l'a retrouvé sain et sauf. » Alors, le fils aîné se mit en colère et refusa de franchir le seuil de la maison. son père sortit et l'invita à entrer. Mais lui, il répond, « Cela fait tant d'années que je suis à ton service. Jamais je ne t'ai obéi à tes ordres. Et pas une seule fois, tu m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand celui-là revient, ton fils qui a mangé ta fortune avec des prostituées, tu tues le veau gras. » Belle réponse du père, après. « Mon enfant, tu es constamment avec moi et tous mes biens sont à toi. Mais il fallait bien faire une fête et nous réjouir, puisque ton frère qui était mort est revenu à la vie, puisqu'il était perdu, et voici qui le retrouvait. » La réponse, pourquoi il y a plus de joie? Parce que nous avons déjà tout. Tout est accessible pour l'autre fils. Et à nous-mêmes, il nous le rappelle, tu as déjà tout. Tout est accessible pour toi. Si Dieu, par sa bonté, pardonne à ceux qui étaient détournés de lui par leur péché, nous ne perdons rien. Robert ne nous vole rien. La récompense que Dieu nous donne reste intacte. Notre relation avec lui ne change pas. On ne se partage pas Dieu. Dieu ne se partage pas entre nous. Et Calvin va même jusqu'à dire que si nous avons un tel comportement, nous manquons d'humanité pour ne pas nous réjouir en voyant nos frères être tirés de la mort et ramenés au chemin de la vie. Toujours les enfants, des fois ils disent « Qu'est-ce que tu aimes le plus ?» Et on leur dit, enfin, je pense qu'on leur dit ça, « On vous aime tous les deux pareil ?» L'autre ne vole pas l'amour que j'ai pour toi. C'est ce que Jésus répond aux pharisiens. Il ne te vole pas l'amour que je peux avoir pour toi. Comme les anges, nous sommes invités à nous réjouir quand une personne se tourne vers Dieu. Jésus nous invite à être comme le Maître, à avoir son cœur pour le monde. C'est toute l'histoire de la Bible. C'est ce qu'on a vu hier dans le parcours jeune chrétien. C'est la phrase que j'aurais donnée. Le sujet central de l'Écriture est le salut que Dieu met en œuvre pour son peuple en Jésus-Christ. Le sujet central de l'Écriture, de la Bible, c'est le salut que Dieu met en œuvre pour son peuple en Jésus-Christ. Intéressant. Éphésiens, ceux qui étaient là au culte du premier se rappellent de ce texte, ce verset que j'ai lu. Le plan de Dieu, il l'a fixé d'avance dans sa bonté en Christ pour conduire les temps vers son accomplissement. Selon ce plan, tout ce qui est au ciel et tout ce qui est sur la terre doit être réuni sous le gouvernement du Christ. C'est le plan de Dieu que la gloire de Dieu descende sur terre. La réunification entre Dieu et nous. Et c'est ce que nous lisons dans Apocalypse 21, avec la Jérusalem céleste qui descend sur terre. La réunification. Dieu nous rejoint. Mais on pourrait se dire, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il attend? Mais il n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse. Il fait simplement preuve de patience à votre égard, à notre égard, car il ne veut pas qu'un seul périsse. Il voudrait au contraire que tous parviennent à se convertir. De Pierre 3,9. C'est chouette, c'est beau. Et pour renforcer cette idée de l'amour de Dieu, Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit se suffit à lui-même. Il n'a pas besoin de nous pour être aimé. Il n'a pas besoin de notre amour, pour se sentir aimé. Non. Il est autosuffisant. Il est Dieu. Et s'il veut partager cet amour avec le monde, c'est simplement par amour, par générosité. Pour que nous, simples créatures, pour montrer la différence de niveau qu'il y a entre Dieu souverain et nous. Ce n'est pas pour dénigrer qui nous sommes. Pour nous, créatures de Dieu, puissions être en relation avec lui. C'est ça que Dieu veut. Et Dieu met les moyens. C'est important pour lui. On n'a que deux chapitres en Genèse qui nous montrent le paradis. Et on a deux, trois chapitres dans l'Apocalypse qui nous montrent le paradis. Et tout le reste de la Bible, qui est quand même un petit quelques pages, nous montre que Dieu veut être en relation avec nous. Et cette relation se passe par la libération. Dieu nous libère de notre péché. Christ a prépayé le prix de la rançon. Christ a payé le prix de notre condamnation. Et ce n'est pas par des biens qui se dévaluent, comme l'argent ou l'or. Non, c'est Christ, tel un agneau pur et sans défaut, qui verse son sang précieux pour nous. Et dès avant la création du monde, Dieu l'avait choisi pour cela. Il est paru lors de son incarnation. Vous voyez que tout le plan de Dieu, c'est ça pour nous, pour l'humanité. Quelles ressources Dieu a-t-il mis en place? Toutes. Et tout, et en se donnant même lui-même. Les autres qui ne sont pas là avec nous ont de la valeur aux yeux de Dieu. Et c'est ce que vous avez vu cette semaine dans les groupes de maison. Dieu aime le riche et le pauvre. Dieu aime, fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Et Jésus est même ému de compassion quand tu vois cette foule loin de lui, sans berger. Ce matin, Dieu nous invite à reconsidérer son amour pour ces personnes. Et c'est le même qu'il a eu envers toi et qu'il a toujours envers toi. En ce qui se concerne des moyens, des méthodes, c'est ce que vous verrez à la formation le 25 février. Il y aura une suite. Il faut venir le 25 février. Prenons conscience que Dieu les aime. C'est une chose trop déraisonnable que par notre dédain, nous rejetions ceux que le Fils de Dieu a tant aimés. Le but suprême de Dieu n'est pas la destruction, mais le salut. Dieu les aime. Et nous avons tout en Christ. Notre part ne nous sera pas enlevée. Et peut-être que c'est un point que nous avons des fois besoin de réfléchir ou méditer, prendre le temps. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir tout en Christ? Si une personne se convertit, qu'est-ce que ça change pour moi dans le négatif? Si un frère devient plus mature que moi, qu'est-ce que ça change dans ma relation avec Dieu? Et comme dirait Pascal, pour paraphraser Pascal, vu qu'on fête ses 400 ans cette année, on a tout à gagner. On n'a rien à perdre. On a tout à gagner. Si on gagne un frère, c'est un frère qui pourra nous encourager aussi à grandir. C'est un frère qui pourra nous témoigner de l'amour de Dieu. On a tout à gagner. Et nous pouvons pleinement nous réjouir avec Dieu. Et si c'est important pour Dieu, ça devrait l'être pour nous. Comment on va déployer les moyens que nous avons? Nos finances personnelles, notre temps, nos relations. Et pour paraphraser Jésus, je dirais, là où sont tes ressources, là aussi sera ton cœur. J'invite à prendre un temps de silence.